Le chrysanthème sacré, une aventure du détective cambrioleur John Strobbins par José Moselli. On peut bien dire que lorsqu'il entreprit l'affaire dont on va lire le récit, John Strobbins travailla pour la gloire, pour l'art et simplement par caprice. Il faillit cependant déchaîner une guerre sans merci entre le Japon et les États-Unis. Comme l'on pense, l'affaire fut tenue secrète jusqu'à son dénouement et seule une indiscrétion du détective cambrioleur a pu en faire connaître les détails. Les voici. Ce jour-là, 6 décembre, une foule énorme se pressait sur le Washington Quay à San Francisco. Malgré la bise âpre de l'ouest et les gros nuages noirs se poursuivant à travers le ciel blême, tout ce que la capitale de la Californie compte de notables ou d'illustres s'entassait dans une tribune au bord du quai garni de pavillons américains et japonais claquant à la brise. Magistrats, banquiers, valant des millions de dollars, ingénieurs, sénateurs ou gouverneurs des différents États de l'Union étaient réunis. La plupart s'étaient munis de lorgnettes avec lesquelles, de temps à autre, ils interrogeaient fiévreusement le sémaphore proche dont le haut mât blanc restait vide de tout signal. Derrière et de chaque côté de la tribune officielle, des milliers de curieux s'entassaient, retenu à grand-peine par un double rang de robustes policemen et de détectives en civil que dirigeait en personne le chef de la sûreté de San Francisco, l'honorable James Molescott. Ces notabilités, cette foule, également impatiente, attendaient tout simplement l'arrivée du croiseur cuirassé Kanazan, de la marine impériale japonaise, et qui amenait aux États-Unis son Altesse impériale, le prince Hikojiro Takahashi, cousin germain de l'empereur du Japon, chargé de signer avec le président Shaft un important traité de commerce relatif à l'immigration des Japonais en Californie et aussi de remettre au magistrat suprême des États-Unis une lettre autographe du Mikado. On sait, ou on ne sait pas, que l'immigration japonaise est sévèrement réglementée en Californie, car les Japonais font aux Américains une concurrence ruineuse en travaillant à des prix dérisoires. Aussi la venue du prince Takahashi passionnait-elle la foule qui échangeait les propos les plus divers. « Ce sale Jap, il va ensorceler le président. Et avant 6 mois, nous serons envahis par ces singes. On les noiera dans le Pacifique s'il le faut. Quand même, c'est glorieux pour nous, vous savez, le propre cousin germain du Mikado qui se dérange. Il ne l'a jamais fait pour personne, car c'est l'héritier du trône, après tout. On s'en fiche qu'il reste chez lui, sûrement. Il doit avoir une sale tête, comme tous les Japs. Que le diable les empale avec un épieu de fer rouge. » Comme on les voit par ses commentaires, la visite de son Altesse impériale, le prince Takahashi, n'éveillait qu'un enthousiasme modéré parmi les curieux. Toutefois, les conversations se turent soudain. Au sommet du mât du sémaphore de l'île Angel, un pavillon blanc, orné d'un soleil rouge aux rayons sanglants, venait de monter le pavillon de guerre japonais. « Le Kanazan est signalé !» glapirent 10 000 voix. C'était vrai. Dans la vaste tribune officielle, officiers, magistrats, parlementaires et belles dames rectifièrent leur tenue instinctivement. Et bien que le croiseur fût encore loin, les jumelles fouillèrent le Golden Gate et balayèrent l'horizon. Bientôt, 3 flammes multicolores, hissées du dessous du pavillon japonais le long du mât du sémaphore, annoncèrent aux initiés que le Kanazan franchissait la passe. Le canon gronda 21 fois. Le puissant cuirassier saluait la terre américaine. Le Forangel, dès qu'il eut terminé, lui répondit coup sur coup. Moins de 10 minutes plus tard, le croiseur cuirassé apparut au milieu de la rade, entièrement peint en gris, ses canons luisants, ses cuivres fourbis à clair. Pas une tache à ses flancs noirâtres. Nul n'eût cru que ce navire venait d'effectuer 12 jours de navigation à toute vapeur et de traverser le Pacifique dans toute son étendue. À chacun de ses 2 mâts tripodes, d'innombrables pavillons, attachés bout à bout, claquetait à la brise. Sur son pont, de l'avant à l'arrière, les marins nippons, vêtus de blanc, étaient rangés, immobiles et rigides. La passerelle de navigation était pleine d'officiers en grand uniforme de drap noir chamarré d'or, les mains gantées de blanc. Au milieu d'eux, son Altesse, le prince Takahashi, se faisait remarquer par sa haute taille et les décorations innombrables cuirassant sa poitrine. Un silence écrasant plana sur la foule. Le Kanazan, lentement, très lentement, arriva au milieu du port. Un léger coup de sifflet s'entendit et soudain, avec un fracas formidable, ses ancres tombèrent ensemble, entraînant les chaînes d'acier et faisant jaillir deux énormes gerbes d'écume. Le croiseur, immobilisé par les puissants grappins, vira doucement sur lui-même. Son pavillon s'abaissa trois fois, tandis qu'à sa poupe, un orchestre attaquait le Yankee Doodle. Alors l'enthousiasme se déchaîna parmi la foule. « Vive les Japs !» hurlèrent les assistants. Et afin de ne pas être en reste avec les Asiatiques, la musique militaire placée à côté de la tribune entama l'hymne national japonais. Cependant le Kanazan, sous le double effort de ses hélices et de la brise du large, dérivait avec lenteur vers le quai. De ses flancs, de légers canots se détachèrent et vinrent accrocher aux canons fixés dans le quai deux grosses amarres sur lesquelles le croiseur se hala. Majestueusement, il accosta, juste au moment où les deux orchestres achevaient les dernières mesures des hymnes américains et japonais. Des flancs du Kanazan, une large échelle garnie de velours rouge frangé d'or descendit. Le gouverneur de l'État de Californie, l'honorable Chas Pistler, suivi du maire de San Francisco et des principaux sénateurs de l'Ouest, s'avança vers le croiseur. Il atteignit le pied de l'échelle de fer juste au moment où le prince Takahashi, précédant sa suite d'officiers chamarrés d'or, y arrivait. Congratulations, salut de bienvenue, remerciements. Le prince parlait parfaitement l'anglais, ce qui, pour l'instant, était inutile, vu que le fracas des cuivres des deux orchestres, qui courtoisement rejouaient les hymnes des deux nations, couvrait sa voix. Le prince Takahashi, très à l'aise, s'inclina devant le gouverneur et gagna la tribune officielle où les notabilités lui furent présentées. Le japonais eut un compliment pour chacun. Il félicita les officiers de leur tenue martiale, déclara admirer la vaillante armée américaine. Au magistrat, il affirma que la justice de l'Union était la meilleure du monde, ce dont il ne doutait pas. Il déclara au sénateur que le Parlement américain était inégalable. Bref, il loua l'Amérique sous toutes ses formes et manifesta une admiration discrète mais flatteuse à la vue des dames qui lui furent présentées. Il sut enfin contenter tout le monde, ce qui, comme on le sait, est difficile. Les présentations terminées, le prince et sa suite montèrent dans les 12 automobiles qui leur avaient été réservés et qui filèrent à toute allure vers l'hôtel America où des appartements attendaient les Japonais. Pendant le trajet du quai à l'hôtel, Takahashi, par sa bonne grâce, ses sourires et les nombreux saluts dont il gratifia la foule, parvint à se concilier le peuple, et lorsqu'il arriva à l'hôtel America, de nombreuses acclamations le saluèrent. Cependant, malgré les hurrahs de la foule, le prince se refusa à paraître au balcon de ses appartements. Nul ne lui en voulut, chacun comprenant qu'il devait avoir un urgent besoin de repos après une si longue traversée. Pendant ce temps, une activité fébrile régnait au palais du gouverneur de l'État de Californie. L'honorable Chas Pistler donnait le soir même un dîner de gala, suivi d'un grand bal en l'honneur de l'illustre japonais. Aussi, dans tous les salons, les équipes d'ouvriers se hâtaient de terminer les derniers préparatifs. Dans son cabinet, où l'honorable Chas Pistler, après avoir accueilli le prince nippon, s'était retiré, le haut fonctionnaire, seul avec M. James Molescott, chef de la sûreté de San Francisco, s'inquiétait pour la millième fois de la sécurité du prince Takahashi. « N'est-ce pas, vous avez bien pris vos précautions, M. Molescott ?» insistait le gouverneur. « Vous savez que de nombreux ouvriers, en haine des Japonais, n'ont pas craint d'affirmer qu'ils comptaient bien avoir la peau du prince. »« Eh, je le sais, monsieur le gouverneur, mais puisque je vous dis que tout a été prévu, tous les domestiques de l'hôtel America sont des détectives déguisés. Vous êtes sûr d'eux ?»« Comme de moi, monsieur le gouverneur, je les ai choisis moi-même. Well. » De plus, 150 policemen surveillent l'extérieur de l'hôtel, sans compter les détectives qui rôdent aux environs. Enfin, débrouillez-vous, et songez que s'il arrive quoi que ce soit au prince, c'est la révocation et aussi la prison pour complicité. J'ai des instructions au sujet de la chancellerie. Rien à craindre, monsieur le gouverneur, affirma Molescott. Je le souhaite. Comme convenu, n'est-ce pas? Vous vous rendrez ce soir à 6 heures à l'hôtel America. Vous serez présenté au prince qui vous fera connaître les policiers japonais qu'il a amenés avec lui, afin qu'il n'y ait aucune confusion. C'est entendu, monsieur le gouverneur. All right, vous pouvez disposer. Le policier, satisfait, sortira, tandis que, rassuré, M. Charles Pistler se levait pour aller déjeuner. La journée que le prince Takahashi et sa suite occupèrent à se reposer à leur hôtel se passa sans incident. À 7 heures du soir, M. Chas Pistler, en grand uniforme, se trouvait au milieu des salons du palais du gouvernement, prêt à recevoir l'illustre japonais. Autour de lui, l'élite de la société californienne, invitée au dîner, attendait avec impatience le cousin du Mikado. Les femmes surtout se montraient curieuses. La plupart avaient des boys japonais à leur service et ne pouvaient concevoir qu'un de ces japs fût prince. Elles languissaient de voir ce phénomène. Les pendules de bronze et d'onyx, posées sur les monumentales cheminées, marquèrent 7h15 sans que Son Altesse Takahashi parût. Nombreux furent ceux qui murmurèrent sur le peu de politesse du japonais. 7h30, personne. M. Chaspisler, dissimulant son énervement, commença à concevoir de l'inquiétude. Il fit un signe à l'un de ses attachés. Celui-ci s'approcha aussitôt. « Allez me chercher James Molescott, » dit le gouverneur à voix basse. À cet instant, il eut un brouhaha dans l'assistance. Un murmure confus s'entendit. « Voilà le prince !» murmurèrent sans voix. En effet, un laquais, debout devant la monumentale porte du salon, criait « Son Altesse Impériale, le prince Ikojiro Takahashi !» M. Jaspisler se précipita vers la porte. Il y arrivait presque lorsque M. James Molescott, en habit noir impeccable, le rejoignit. « Me voici, monsieur le gouverneur, » fit le policier. « C'est bon, je n'ai pas besoin de vous. Mais... » insista Molescott, ahuri. Sans même lui répondre, M. Jaspisler se hâta au-devant de son illustre visiteur. Le prince Takahashi, accompagné d'une dizaine d'officiers nippons, venait de franchir la porte. Jaspisler remarqua que le japonais, malgré le sourire de commande flottant sur ses lèvres, paraissait à la fois inquiet et furieux. Les dignitaires de sa suite ne se gênaient pas pour jeter autour d'eux des regards de colère. « Altesse, » commença le gouverneur de la Californie, arrivé à deux pas du prince, « permettez-moi de vous dire tout l'honneur, tout le plaisir que me cause votre impériale visite. Le peuple américain tout entier souhaite par ma voix une sincère et cordiale bienvenue à votre Altesse et à ses vaillants officiers. » Le prince Takahashi s'efforça de sourire un peu plus. « Oh, monsieur le gouverneur, croyez bien que tout le... » Soudain, une bousculade effrayante déferla autour des deux hommes debout vis-à-vis l'un de l'autre. 6 officiers japonais, dégainant leurs courts sabres, se précipitèrent sur monsieur James Molescott, qui, mêlé à la foule des invités à quelques pas derrière le gouverneur de la Californie, surveillait toute cette scène. En moins de 10 secondes, il fut saisi à la gorge, frappé à coups de plat de sabre, bousculé, tiraillé, et la face confuse, les habits en lambeaux, portés sur un canapé proche, tandis que les canapés proféraient de sourdes imprécations. La scène avait été si rapide que nul parmi les assistants n'avait eu le temps de s'interposer. Pendant 1 seconde, un silence de mort régna dans les salons, cependant que le prince Takahashi et le gouverneur de l'État de Californie restaient face à face, immobiles et muets. M. Chaspisler fronça les sourcils, outré d'un pareil incident. Pourtant, il se retourna et étendit la main pour arrêter l'élan d'une dizaine de gentlemen, des détectives déguisés, qui accouraient au secours de leur chef. Le prince Takahashi avait conservé son impassibilité, mais ses yeux brillaient d'un éclat farouche. « Que signifie, Altesse ?» demanda M. Chaspisler, contenant avec peine sa colère. « No matter, ce n'est rien. Mes officiers viennent de reconnaître un voleur et s'en sont emparés. J'en suis en vérité tout à fait confus. Un voleur, M. James Molescott, le chef de la sûreté de San Francisco? Vos officiers se trompent, Altesse. J'ai le très grand regret de vous dire que non. L'homme qui est là, sur ce canapé, m'a bien en effet été présenté comme chef de la police de votre ville. Mais il n'en est pas moins vrai qu'il est un voleur et digne d'être pendu. Excusez-moi, Altesse, vous permettez que je l'interroge? Je suis entièrement à votre disposition, monsieur le gouverneur. » Un doute terrible venait de germer dans l'esprit de M. Chaspisler. Bien que depuis peu installé comme gouverneur de l'État de Californie, il n'était pas sans connaître les démêlés retentissants survenus entre James Molescott et le célèbre John Strobbins. Il se rappelait l'extraordinaire habileté à se grimer du détective cambrioleur, qui avait réussi à se faire passer pour le détective Peter Grangsby, envoyé à sa poursuite, et plus récemment à escroquer une compagnie d'assurance en se faisant condamner à mort sous l'aspect d'un criminel repoussant. Alors M. Chaspisler, en proie à une horrible angoisse, se demanda si par hasard ce n'était pas John Strobbins qui, sous l'apparence de James Molescott, dirigeait le service d'ordre. Le détective cambrioleur en était bien capable. En trois bonds, le gouverneur de la Californie arriva devant le canapé sur lequel les officiers nippons maintenaient leur victime. Il se pencha sur le prisonnier et d'un coup d'œil fut fixé. Nul doute possible, c'était bien James Molescott qu'il avait devant lui. Le policier, bâillonné avec la ceinture de cuir vernie à boucle d'or d'un des officiers nippons, la face violette, un œil poché et le nez en sang, respirait faiblement. À cette vue, M. Jas Pisler sentit la colère bouillonner en lui. « Dites à vos hommes de lâcher ce gentleman » gronda-t-il en se tournant vers le prince, qui n'avait pas bougé et se tenait au milieu du salon entre quelques-uns de ses officiers, sans se soucier des coups d'œil furieux et des murmures menaçants de la foule hostile. Du bout des lèvres, le prince prononça quelques paroles en japonais. Les officiers, sans murmurer, lâchèrent immédiatement James Molescott, s'écartèrent et, sans perdre le policier de vue, allèrent se placer derrière l'altesse impériale. Les détectives, qui, immobiles et les poings serrés, attendaient, prêts à l'attaque, se précipitèrent vers leur chef sur un signe de M. Jas Pisler et lui enlevèrent la ceinture qui le bâillonnait. À la vue de James Molescott, sanglant et contusionné, un grondement de haine à l'adresse des Japonais résonna longuement dans les salons. « Du calme, gentlemen !» conseilla M. Jas Pisler, qui lui-même avait peine à contenir sa fureur. Le silence se fit. L'assistance fit cercle autour du gouverneur de la Californie et du prince Takahashi, debout à 10 pas l'un devant l'autre. M. Jas Pisler, d'un pas résolu, se dirigea vers le Japonais. « Altesse » dit-il, d'une voix tremblante de colère, et qui s'entendit jusqu'à l'autre bout du salon. « L'homme que vos officiers viennent de molester si indignement et au mépris, le plus invraisemblable des lois de l'hospitalité, est l'honorable James Molescott, le chef de la police de San Francisco. Je le sais !» affirma froidement le prince. « Il vient de me voler un bijou d'une valeur inestimable, c'est... Comment, Altesse ?» balbutia Jas Pisler, démonté. « Je dis que ce monsieur James Molescott vient de me voler le chrysanthème sacré donné à mon ancêtre par le dieu Shinto. Mais je suis sûr que ce James Molescott est le coupable. D'ailleurs, cela arrive souvent au Japon, et aussi ailleurs. » Monsieur Jas Pisler rougit pour son pays à qui l'allusion s'appliquait. « Que les policiers soient en même temps des voleurs. »« Monsieur James Molescott est un honnête homme, Altesse. Je m'en porte garant. »« Permettez-moi de vous dire que vous avez tort. »« Tout voleur a commencé par être honnête homme. »« Et puis, je suis tout à fait confus de vous le dire. »« Le sage affirme qu'il ne faut répondre de personne, pas même de soi. »« Au Japon peut-être, Altesse, » fit Monsieur Jas Pisler impatienté. « En fait, je suis sûr de l'innocence de Monsieur Molescott. » « Je regrette de ne point être de votre avis, monsieur le gouverneur. Et comme je tiens énormément la relique qui vient de m'être volée, je vous prierai de bien vouloir faire fouiller minutieusement monsieur James Molescott avant qu'il ne sorte d'ici. »« Mais enfin, de quoi l'accusez-vous? Je vais vous le dire, » fit froidement le prince japonais qui fit un signe à deux de ses officiers. Ceux-ci rejoignirent les détectives qui, sur un brancard hâtivement apporté, se disposait à conduire l'infortuné chef de la sûreté à l'infirmerie du palais du gouvernement. « Fichez-moi le camp, vous autres !» ordonna un détective aux deux officiers d'un air menaçant. Les Japonais, une seconde interloqués, se tournèrent vers le prince comme pour lui demander des instructions. À ce moment, une porte s'ouvrit et un maître d'hôtel, grave, annonça « Son Altesse impériale est servie !» Cette annonce, bouffonne par suite des événements qui venaient de se dérouler, provoqua de nombreux sourires. Un ingénieur français qui se trouvait parmi les invités murmura à une dame proche de lui « Je crois que pour l'instant c'est ce pauvre M. Molescott qui est servi. » Cependant, le prince Takahashi, sans paraître voir les signes interrogatifs de ses officiers, disait au gouverneur de la Californie « Il me serait agréable, monsieur le gouverneur, que ce M. James Molescott ne quittât point cette salle avant que je vous ai donné des explications sur le vol commis par lui. » « Mais par lui, et pas par un autre, monsieur le gouverneur, et je vais vous en donner la preuve, s'il vous plaît, car il faut absolument. » Et le prince s'appuya sur le mot « absolument », et ses lèvres se pincèrent, « que le bijou sacré dérobé par ce misérable me soit restitué, il le faut !» Monsieur Jas Pisler ne s'était vu de sa vie dans une aussi terrible situation. Il avait des ordres de Washington pour être agréable en tout au prince japonais, et voilà ce qui lui arrivait. Il se tourna vers les détectives qui venaient de soulever la civière contenant James Molescott et d'une voix rauque ordonna « Restez ici, ne bougez pas !» Les policiers obéirent. Ils déposèrent le brancard sur le parquet luisant avec tant de brusquerie que M. Molescott poussa un grognement de douleur. « Qu'on aille chercher un médecin !» commanda M. Chas Pistler. Deux détectives se précipitèrent vers la porte et disparurent. Le gouverneur de l'État de Californie, très pâle, déclara à haute voix « Ladies and gentlemen, je vous prie d'excuser l'incident déplorable qui vient d'avoir lieu et n'aura, je l'espère, aucune suite grave. Je vous prie aussi de bien vouloir taire tout ce que vous avez pu voir ou entendre de ce regrettable imbroglio. Pour l'instant, je vous demande de m'excuser. Tout se réduira, je pense, à un léger retard apporté à notre dîner. » Un murmure approbatif couvrit les dernières paroles de M. Chas Pistler. Il s'inclina à la ronde et dit au prince Takahashi, toujours impassible, « Vous plairait-il, Altesse, de bien vouloir m'accompagner dans mon cabinet ? Nous serons ainsi mieux pour causer. Je suis à votre disposition, monsieur le gouverneur. Je vous prie seulement d'y faire transporter également M. Molescott, que je désire interroger en votre présence. Je ne demande pas mieux, Altesse. » M. Chas Pistler, ayant ordonné au détective de le suivre avec la civière contenant James Molescott, se dirigea vers son cabinet. Le prince Takahashi marchait à ses côtés, cependant que l'assistance, muette et désemparée, les suivait d'un regard anxieux. Que se passait-il? En quelques instants, les deux hommes parvinrent au cabinet du gouverneur de la Californie. M. Chas Pistler, courtoisement, fit signe au prince de prendre place dans un fauteuil, tandis que lui-même s'asseyait derrière son bureau d'acajou à coin de bronze. Le brancard sur lequel était étendu M. James Molescott fut déposé sur le tapis. Et sur un geste impérieux du gouverneur de la Californie, les détectives qui l'avaient apporté se retirèrent. Les deux hommes, la porte fermée, restèrent seuls. « Je suis entièrement à vos ordres, » déclara M. Chas Pistler au prince Takahashi. Ce dernier s'inclina. « Voulez-vous demander à cet homme s'il peut nous entendre et répondre à mes questions ?»«
Parfaitement !»
fit James Molescott d'une voix sourde, et d'un effort, il parvint à se dresser sur son séant.
« J'en suis heureux !»
dit le prince, froidement. « Je vais donc commencer, monsieur le gouverneur. Vous vous convaincrez, ainsi, de la justesse de mes affirmations. Je vous écoute, Altesse. Voici. Comme vous le savez, je suis arrivé ce matin, un peu avant midi, à l'hôtel America, où des appartements m'avaient été réservés, à moi et à ma suite, par les soins de l'ambassade impériale japonaise. » M. Chas Pistler approuva de la tête. Le prince, satisfait de cette approbation muette, poursuivit. « Aussitôt arrivé, je gagnai ma chambre à coucher et, comment dirais-je, après avoir fait quelques toilettes, j'allais m'étendre dans le petit salon attenant à cette pièce où je restais jusqu'au déjeuner. Je pris mon repas dans mes appartements et occupais l'après-midi à me reposer, car la mer m'avait beaucoup fatigué. » Le gouverneur de la Californie fit un signe de condoléance polie. « Or, écoutez-moi bien, monsieur le gouverneur, » continua le japonais. « Afin de mieux reposer, j'avais quitté mes bijoux et les avais déposés dans une coupe de cristal placée elle-même sur un guéridon de bois laqué occupant le milieu de la pièce dans laquelle je m'étais étendu. À 5h30, je m'éveillais et m'habillais. J'avais à peine achevé lorsqu'un de mes aides de camp me fit part de l'arrivée à l'hôtel America de M. James Molescott. « Vous me suivez, monsieur le gouverneur. Avec la plus grande attention, Altesse. Je vous remercie. » Comme l'homme chargé de veiller à ma sûreté ne pouvait m'être indifférent, j'ordonnai à mon aide de camp, qui depuis mon arrivée n'avait jamais passé le seuil de la porte du petit salon où je me trouvais, d'amener devant moi M. James Molescott. Pendant qu'il allait chercher ce « gentleman », je m'amusai à faire luire dans mes doigts les bijoux que j'avais laissés dans la coupe et parmi lesquels se trouvait le chrysanthème sacré provenant du dieu Shinto. C'est une pièce incomparable, autant par la délicatesse de sa fabrication que par les matériaux qui la composent. 17 perles du plus pur Orient, et telles qu'il n'en existe pas une 18e au monde, réunies en rayons autour d'une grosse opale incrustée de diamants bleus. Cela forme un énorme chrysanthème, monté en or, et que je porte ordinairement attaché à une mince chaîne d'acier et d'or. Lorsque mon aide de camp précédent, M. James Molescott, ouvrit la porte, je reposais l'inestimable joyau dans la coupe. Or, notez bien que j'étais seul dans ce petit salon, qu'il n'avait qu'une issue, la porte par laquelle mon aide de camp et M. Molescott entrèrent, que les fenêtres en étaient fermées, que les meubles légers ne pouvaient dissimuler personne. Vous me comprenez bien, monsieur le gouverneur.
Admirablement, Altesse.
Très bien. Donc, quand M. Moleskot entra, le chrysanthème se trouvait encore dans la coupe et...
Je vous demande pardon, Altesse.
Interrompit M. Jaspisler. Je voudrais vous adresser une question. Me le permettez-vous?
Je vous en prie, monsieur le gouverneur.
Combien vaut le bijou perdu? Le japonais pâlit légèrement et d'un mouvement brusque et instinctif porta la main à la garde de son épée. Ses yeux lancèrent un éclair de fureur, mais il se contint et par un effort de volonté rendit le calme à ses traits. Cela dura une seconde à peine. Le japonais, s'étant ressaisi, répondit en souriant.
« Oh, monsieur le gouverneur, c'est un joyau sans prix, et tout l'or de l'Amérique ne suffirait pas à le payer. Il faut absolument qu'il se retrouve. »
M. Jaspisler, ennuyé et confus, hocha la tête sans rien trouver à répondre. « Je disais donc, monsieur le gouverneur, que lorsque M. Moleskot entra, et il entra seul, mon aide-de-camp resta à la porte.
« Est-ce vrai, monsieur Moleskot, que vous entrâtes seul ?»«
C'est vrai, » affirma le policier.
« Très bien. »
Je restai environ 10 minutes avec M. Moleskot, pendant lesquelles je le remerciais de veiller sur ma personne. Or, pendant que je parlais, M. Moleskot resta debout, tout près du guéridon.
« Il ne le dira pas, je suppose. »«
Non, » fit le chef de la sûreté de San Francisco en s'agitant faiblement sur sa civière. « Mais monseigneur oublie de dire que, tandis que son Altesse me parlait, je ne cessais de le regarder en face, et par conséquent tournais le dos au guéridon que d'ailleurs je ne remarquais pas.
Il n'est pas difficile de prendre un objet en étendant les mains derrière soi, »
observa le prince Takashi durement.
« Je n'ajouterai rien, monsieur le gouverneur, sinon que 10 minutes après que M. Moleskot m'eut quitté, lorsque je voulus prendre le chrysanthème sacré, je m'aperçus qu'il avait disparu et le cherchais en vain. Pourtant, nul autre que moi ne se trouvait dans le salon. » Et personne n'était venu depuis le départ de M. Moleskot. Je fouillai moi-même les moindres recoins de la petite pièce, puis, devant l'insuccès de mes recherches, j'appelai mes serviteurs. Je leur fis ouvrir les capitonnages des fauteuils, sonder les murs, enlever les tapis, démonter les tentures. Le chrysanthème d'or ne se retrouva pas. Qu'auriez-vous pensé à ma place? J'accuse M. Moleskot de m'avoir dérobé ce bijou, et mes officiers sont de mon avis. C'est pour cela qu'ils se sont précipités sur M. Moleskot en l'apercevant dans vos salons. Je suis confus, vraiment, de ce pénible incident, et vous en présente mes complètes excuses, monsieur le gouverneur. Et je prie M. Moleskot de bien vouloir me rendre ce bijou enlevé par lui. Je ne porterai pas plainte. Je sais ce que c'est que la fragilité humaine. À force de vivre avec des voleurs, il se peut qu'on le devienne. Je vous prierai même, monsieur le gouverneur, d'oublier ce malencontreux incident et de ne pas tenir rigueur à M. Moleskot, à qui je compte verser 10 000 $ pour le dédommager de la restitution du chrysanthème sacré. » Et sur ces paroles, le japonais se tut. M. Jaspisler resta muet de stupeur. Il tourna la tête et regarda James Moleskot. Comme si le coup d'œil du gouverneur l'eût galvanisé, le chef de la sûreté de San Francisco se mit brusquement debout malgré ses blessures. Hagard, l'œil strié de sang, la lèvre écumante, il gronda. « Ah ça, c'est un peu fort !»« Tonnerre de Dieu! Alors je suis un voleur, moi !»« Et l'on m'offre de l'argent pour rendre mon larcin !»«
Malheur et malédiction! Prouvez-le, l'homme, que je suis un... »«
Monsieur Moleskot, du calme !»
interrompit M. Jaspisler en se levant. « Du calme, je vous prie !»«
Du calme? Lorsqu'on me traite de voleur, moi, un magistrat de l'Union ?» Qu'il le prouve que je suis un voleur. Je suis prêt à me laisser fouiller.
En attendant, la parole d'un citoyen américain vaut mieux que celle d'un Jap, fût-il prince ou même empereur. Le prince Takashi resta impassible comme s'il n'avait pas entendu. Seulement, d'un mouvement imperceptible, il tourna la tête vers le gouverneur de la Californie et dit
« Au Japon, monsieur le gouverneur, la personne d'un hôte et ses biens sont sacrés. » Je veux croire qu'il en est de même dans votre pays. Je vous prie donc de bien vouloir faire le nécessaire pour que le chrysanthème du dieu Shinto me soit restitué. Il le faut absolument. »
Le japonais, comme il l'avait déjà fait, appuya avec force sur cette dernière phrase. M. Jaspisler était de plus en plus embarrassé.
« Monseigneur, »
s'écria M. James Moleskot, que la fureur et l'indignation galvanisaient,
« vous vous trompez. Je n'ai pas touché aux chrysanthèmes. J'ignorais même son existence.
Et permettez-moi de vous dire qu'il est regrettable que vos officiers se soient livrés à de pareils excès sur ma personne.
Oui, regrettable et inutile.
En vous quittant, monseigneur, je suis venu directement ici, et l'on veut me fouiller. J'y suis résigné. Il est vrai que j'ai pu, n'est-ce pas, passer le bijou à un complice qui l'a mis en lieu sûr.
Le japonais ne broncha pas. Woolscott, s'échauffant, continua en s'adressant à M. Chas Pistler.
« Eh bien, monsieur le gouverneur,
laisserez-vous ainsi suspecter et insulter un citoyen américain, fonctionnaire du gouvernement ?
Pour moi, l'affaire ne se terminera pas là. Et dussé-je en appeler au gouvernement fédéral, au Sénat, à la Cour suprême, au président même, je tirerai réparation de l'outrage qui m'est fait. »
M. Chas Pistler, de plus en plus ennuyé, ne répondit pas. Le prince Takahashi, lui, gardait son calme dédaigneux.
« Altesse, fit le gouverneur de la Californie, rien ne prouve absolument la culpabilité de M. James Woolscott, culpabilité à laquelle je me refuse à croire et que le passé irréprochable et exemplaire de M. Woolscott rend tout à fait invraisemblable. Je suis certain que... »
« Fort bien, monsieur le gouverneur, interrompit le japonais.
Mais alors, pouvez-vous me dire comment le chrysanthème du dieu Shinto a disparu ?»
M. Chas Pistler réprima un haussement d'épaule.
« Vous comprenez bien, Altesse, que je n'en sais rien.
Je disais donc que j'étais certain que M. Woolscott se chargerait de démasquer le voleur et de retrouver le joyau disparu si...
Il me faut des excuses. Des excuses de tous ces officiers qui m'ont frappé, et des dommages et intérêts. »
Coupa Woolscott résolu.
« Mon cher Woolscott, votre demande est on ne peut plus légitime. Cependant, dans l'intérêt supérieur de notre pays, je vous prie d'oublier ce malencontreux incident auquel son Altesse est complètement étrangère. »
Le prince Takahashi, j'en suis sûr, déplore comme moi ce malheur.
Je le déplore,
fit sèchement le japonais, qui depuis quelques instants observait le chef de la sûreté de San Francisco. Ce dernier ne répondit pas.
Et je suis prêt à verser à M. Woolscott la somme qui lui plaira, pour le dommage qu'il subit, et aussi une autre somme dès que je serai rentré en possession du chrysanthème sacré.
M. James Woolscott pensa en ce moment précis qu'il guignait depuis quelque temps un joli petit cottage près d'Oakland et que ce cottage valait 8 000 $. Il déclara
« Il me faut 10 000 $ de dommages et intérêts pour les sévices dont j'ai été l'objet. »
« Mon majordome vous remettra un chèque, monsieur, » répondit le japonais.
« Il y aura encore 25 000 $ pour celui qui me remettra le chrysanthème. »«
Je ferai pour le mieux, monseigneur, » affirma le chef de la sûreté de San Francisco, qui maintenant ne regrettait plus sa soirée.
« Je vais aussitôt faire procéder à une enquête que je dirigerai moi-même.
Me permettez-vous, monseigneur, de faire insérer dans les journaux l'annonce de la récompense que vous promettez à celui qui vous rapportera le joyau ?»«
Agissez comme vous l'entendez, » répondit le japonais. « Ce qui m'importe, c'est de rentrer en possession du chrysanthème, car je ne retournerai pas au Japon sans lui. »
M. Chas Pistler tressaillit en entendant cette menace non déguisée et proférée d'un ton résolu.
« Nous allons tenter l'impossible pour vous satisfaire, Altesse, » dit-il.
M. James Woolscott, réconforté par l'espoir des 10 000 $, s'était complètement redressé. Il ne sentait plus les hourrions reçus ni les courbatures.
« Je vais immédiatement m'occuper de cette affaire, monseigneur, » dit-il au prince Takahashi.
Le japonais inclina la tête affirmativement.
Au fond, il regrettait de n'avoir pas fait fouiller Woolscott qu'il croyait coupable. Mais avec une astuce toute asiatique, il pensait que l'appât des 25 000 $ promis inciterait le policier à restituer le joyau. Clopin clopant, James Woolscott quitta le cabinet du gouverneur de la Californie. Presque aussitôt, M. Chas Pistler et le prince Takahashi, tacitement d'accord, se levèrent et regagnèrent les salons où les invités, surpris et intrigués, se laissaient aller aux plus baroques suppositions. L'apparition du gouverneur et du japonais calma un peu le malaise régnant, et quelques instants plus tard, tout le monde se mit à table. Au dessert, le prince Takahashi et M. Chas Pistler échangèrent des toasts cordiaux, comme si de rien n'était, et la soirée se termina sans autre incident. Cependant, M. James Woolscott, après avoir quitté le gouverneur de l'État de Californie, s'était fait conduire en voiture à l'hôtel de la police. Il y fit rapidement panser les nombreuses contusions lui parsemant le corps et revêtit des habits intacts. Puis, après avoir donné l'ordre à l'inspecteur Peter Cranksby, sous-chef de la sûreté, de veiller sur le prince Takahashi, il se rendit à l'hôtel America, accompagné de deux de ses plus habiles détectives.
L'hôtel America où était descendu le prince Takahashi était, sans contredit, un des plus luxueux, sinon le plus, de San Francisco. L'appartement réservé au prince japonais était situé au premier étage au-dessus de l'entresol. Il se composait d'une suite de vastes et luxueuses pièces, desservies toutes par une galerie aux parois de laquelle des tableaux de maître authentiques étaient accrochés. M. James Wellscott arriva un peu après 9 heures à l'hôtel America et se fit aussitôt conduire dans les appartements du prince Takahashi. Ils étaient déserts pour l'instant. Accompagné du gérant de l'hôtel et des deux détectives, le chef de la sûreté de San Francisco arriva dans le salon où il avait été présenté au prince japonais. Au milieu de la pièce, il reconnut le petit guéridon laqué sur lequel la coupe de cristal, vide maintenant et ayant contenu le précieux chrysanthème, se trouvait toujours. M. James Wellscott regarda autour de lui et lentement fit le tour de la pièce. Les murs en étaient nus. Seuls quelques petits tableaux les garnissaient. Wellscott les fit décrocher l'un après l'autre pour s'assurer qu'ils ne dissimulaient pas quelques cachettes. Il examina les cadres et se rendit compte qu'ils étaient massifs. Il fit soulever les tapis et les lames du parquet. Il secoua le guéridon, le palpa et l'examina à la loupe. C'était un honnête guéridon Louis XVI, bien incapable de receler quoi que ce fût dans ses minces montants. « Oh, monsieur Wellscott, fit le gérant, tout ce que vous faites, nous l'avons déjà fait. Le bijou n'est pas dans la chambre. Vous avez sondé les murs ? Oui, monsieur Wellscott, et c'est bien inutile, vu qu'ils sont en pierre de taille. Je les ai vus construire. Et la cheminée ? Fit Wellscott frappé d'une idée soudaine, en jetant les yeux sur l'élégante cheminée de marbre blanc sculpté occupant le centre d'un des pans du salon. Le gérant sourit. C'est une fausse cheminée, monsieur Wellscott. Voyez, ici nous chauffons avec des radiateurs, dont les tuyaux sont dissimulés dans les moulures des cimaises. Le gérant disait vrai. La cheminée était constituée par un bloc de marbre évidé, mais sans aucune issue. Alors, puisqu'il fallait tenir pour vrai le récit du prince Takahashi, par où était passé le voleur ? James Wellscott n'y comprenait plus rien. Par acquis de conscience, il recommença une seconde fois ses recherches, sans être plus heureux, et dut s'avouer qu'il n'y comprenait rien. En vain interrogea-t-il le personnel entier de l'hôtel depuis le gérant jusqu'au dernier des marmitons, en passant par les cuisiniers, sommeliers, femmes de chambre et liftmen, il ne put obtenir aucun renseignement pouvant le mettre sur une piste quelconque. Il consulta la liste des voyageurs habitant l'hôtel, sans que leur nom lui rappelasse quoi que ce fût. La plupart d'entre eux étaient réunis dans le hall, et leur dîner achevé savouraient leur café au son d'un orchestre chinois. Sans affectation, James Wellscott se glissa parmi eux et les dévisagea dans l'espoir de faire quelques découvertes intéressantes. Ce fut en vain. Il se retira vers minuit sans avoir pu mettre la main sur le plus petit indice. Par acquis de conscience, il fit porter au journal le Californian Herald une annonce ainsi conçue. Celui qui a dérobé le chrysanthème de perles est prié de le rapporter à l'hôtel de la police. Il recevra 25 000 $ de récompense et ne sera pas inquiété. Signé, le chef de la sûreté de San Francisco, James Wellscott. Après quoi, harassé de fatigue et meurtri par les coups reçus, M. Wellscott s'en fut se coucher. Il dormit mal, et toute la nuit rêva que des Japonais l'assommaient. Le lendemain matin, dès l'aube, il fut debout et gagna son cabinet de travail. Il sonna et ordonna qu'on fît venir devant lui Peter Cranksby, le sous-chef de la sûreté. « Rien de nouveau ? » demanda-t-il, dès que ce dernier fut arrivé devant lui. « Rien, chef. »« C'est bon, vous allez m'aider à décacheter mon courrier. » Je vous parlerai après de cette affaire du chrysanthème. « Du chrysanthème, chef ?» fit Cranksby sans comprendre. « Je vous expliquerai cela, » répondit James Wellscott. « Finissons-en. » Peter Cranksby inclina la tête affirmativement. Les deux hommes commencèrent à décacheter avec rapidité, à parcourir et à classer les lettres éparses sur le bureau du chef de la sûreté et qui portaient toute la mention personnelle. Soudain, Peter poussa un cri étouffé. « Quoi ? Qu'a-t-il ? » fit James Wellscott surpris. Une lettre de John Strobbins. John Strobbins vous écrit. Enfer et malédiction, c'est lui qui a volé le chrysanthème. Ça ne pouvait être que lui, j'aurais dû y penser. Donnez-moi ce papier. Peter Cranksby obéit. Ce n'était pas la première fois que James Wellscott recevait une communication de John Strobbins. Lettres, télégrammes, câblogrammes, conversations téléphoniques, voire radiotélégrammes, le détective cambrioleur usait largement de tous les moyens pour correspondre, lorsqu'il le jugeait opportun, avec le chef de la sûreté de San Francisco. Mais chaque fois, et James Moscott y songeait en crispant ses doigts nerveux sur la missive de John Strobbins, chaque fois que le détective cambrioleur avait envoyé quelques communications au chef de la sûreté, ça avait été inévitablement pour le bafouer. Les sourcils français, James Moscott lut « Très cher Monsieur Moscott, des amis à moi que vous m'excuserez de ne pas nommer, et c'est d'ailleurs inutile, m'ont raconté la façon un peu délicate, je dirais même brutale, s'il ne fallait s'attendre à tout d'un peuple aussi barbare que les Japonais, que les officiers de son Altesse le prince Takahashi en ont usé envers vous hier soir au palais du gouvernement. Ils vous ont rossé, paraît-il, et bien à tort, doublement à tort même. Je m'explique. Premièrement, vous êtes complètement innocent de la disparition du bijou du prince. Deuxièmement, ce joyau, quoi qu'en dise le cousin du Mikado, n'a qu'une valeur assez minime. Les ciselures en sont quelconques, nullement originales et tout à fait usées. Les perles ont, pour la plupart, perdu leur orient, elles sont mortes et sans éclat. Quant aux diamants occupant le centre de ce chrysanthème, ils sont mal taillés et jaunâtres. Je parle sans exagération et sans vain désir de dénigrer un objet qui, pour l'instant, est mon bien. Cher Monsieur Moscott, vous pouvez m'en croire. Comme vous le voyez, j'ai fait une mauvaise affaire. J'ai perdu mon temps et usé mon cerveau en pure perte, et de plus, je suis cause que votre figure et votre échine ont été endommagées. Acceptez-en ici mes plus plates excuses. Mais vous allez vous demander pourquoi je vous écris cette lettre. Voici. Je viens vous déclarer que je regrette profondément et sincèrement d'avoir fait l'acquisition de ce bijou baroque sans nul intérêt. Je suis donc prêt à le restituer pour rien, il ne vaut guère plus. Cependant, puisque time is money, vous estimerez comme moi que le temps et la peine qu'ont nécessité les préparatifs de mon entreprise méritent une rétribution, n'est-ce pas? J'ai lu tout à l'heure dans le Californian Herald que vous, ou plutôt le prince Takahashi, offrait de verser $25,000 à qui rapporterait le chrysanthème disparu. À vrai dire, ce bijou ne vaut pas plus. Mais à cette somme, il convient d'ajouter $75,000, juste rémunération de mes peines et démarches, soit en tout $100,000, contre lesquels je restituerai, intact et enveloppé dans un fin papier de soie, je le donne gratis, le chrysanthème sacré du prince Takahashi. Je compte même vous l'apporter en personne, ce qui me procurera le plaisir très vif et toujours nouveau de vous voir. Si vous acceptez, veuillez mettre une annonce dans le Californian Herald, annonce très explicite et promettant que je ne serai inquiété en rien. Je lirai le Californian Herald demain. Sinon, j'agirai auprès du prince Takahashi car je ne veux à aucun prix être frustré du produit de mon travail, prétention juste, légitime et équitable. Dans l'attente de notre prochaine entrevue, je vous présente, cher Monsieur Moscott, mes compliments confraternels et distingués. John Strobbins. Quand Monsieur Moscott eut terminé de lire cette épître railleuse, il était rouge de fureur et ses lèvres tremblaient. Il lui fallut plusieurs minutes avant de se remettre. Il regarda Peter Cranesby, impassible, d'un œil furibond, froissa le papier et hocha la tête. « C'est bien cela, » dit-il. « C'est John Strobbins qui a enlevé le chrysanthème d'or. »« Ça ne pouvait être que lui. »« Ah, quand donc en aurons-nous fini avec ce bandit ?»« Que dit-il, chef ?» murmura Peter Cranesby. « Ce qu'il dit ? Non, vous ne pouvez en avoir une idée. »« Il a le toupet de prétendre que le bijou ne valait pas la peine qu'il se dérangeât. » Et il offre de le rendre pour rien. Vous dites, chef? Oui. Il offre de rendre gratuitement le chrysanthème. Mais il exige qu'on lui verse $100,000 pour son dérangement. $100,000. Le prince en offre 25,000. Pour moi, je ne veux plus avoir affaire avec ce japonais de malheur. Vous ferez donc dire au prince Takahashi que j'ai découvert l'auteur du vol. Enfin, que le voleur m'a écrit, quoi. Et qu'il demande $100,000. D'ailleurs, je suis sûr que le japonais les donnera. « Je ne suis pas bien au courant de toute cette affaire, chef, » dit Peter Cranesby. « Ah, c'est vrai, je ne vous ai pas expliqué, » commença Moscott. Et d'une voix sourde, il fit part à son subordonné, et sans omettre aucun détail, des événements survenus la veille, tant au palais du gouvernement qu'à l'hôtel America. « Et que comptez-vous faire, chef ?» demanda Cranesby, sitôt que le chef de la sûreté de San Francisco eut terminé. « Et verser à ce modiste Robbins la somme demandée, si le japonais le veut bien ?» « Mais où ? Ce bandit offre de venir lui-même chercher l'argent et de remettre le bijou si on lui promet l'impunité, grogna Moll Scott. Quel culot! Que faire, pourtant? Le mieux est d'en passer par où il l'exige, puisque le Japonais veut à tout prix avoir sa breloque.
Vous avez raison, chef, acquiesça Peter Grimsby. Je vais de suite faire prévenir le prince du sort du chrysanthème et lui demander s'il accepte les conditions de John Strobbins.
Well, faites vite, j'ai hâte de ne plus penser à cette affaire.
Quel homme, il est insatiable. Il doit posséder près de 100 millions de dollars s'il a gardé tout ce qu'il a volé.
Sûrement. À tout à l'heure, chef.
James Moll Scott resta seul. Bien qu'il ne voulût pas y penser, la personnalité de John Strobbins s'imposait à son esprit. Il se rappela tous les tours que lui avait joués l'insaisissable détective cambrioleur et sentit se rallumer ses vieilles rancunes. Pendant plus d'une heure, il remâcha ses griefs contre son ennemi. Il évoqua les innombrables occasions dans lesquelles John Strobbins l'avait bafoué, ridiculisé, humilié, si ce n'est pire. Il tâta ses épaules et sa figure encore endolorie des coups frappés par les officiers japonais, toujours par la faute de John Strobbins. Il relut la lettre narquoise du détective cambrioleur et sa rage fut à son comble. Il conclut.
« Avec un pareil bandit, se gêner serait une naïveté. J'étais vraiment trop simple jusqu'ici. Je vais, sans plus tarder, mettre l'annonce qu'il demande dans le Californian Herald, en lui promettant l'impunité, s'il veut venir ici, dans mon cabinet, me remettre le chrysanthème d'or. Et s'il vient, comme je n'en doute pas, les 6 solides gaillards que j'aurais fait cacher ici me le maintiendront et l'emmèneront dans quelque bonne cellule où je vais le surveiller moi-même. On verra bien. Je finirai peut-être par triompher. En tout cas, j'en profiterai pour me faire expliquer la manière dont il a enlevé le chrysanthème aux Japonais. Je ne vois pas bien comment. Mais il faudra bien qu'il me le dise, ou je le ferai mettre au 3rd degree, au 3e degré. D'abord, même s'il parle, je le ferai mettre quand même. Il en a mérité 10 fois plus.
Rasséréné par ses réflexions, M. James Moll Scott saisit un porte-plume et sur le champ libella l'annonce suivante destinée au Californian Herald.
J.S. est prié de venir demain vendredi à 10 heures du matin avec le chrysanthème au bureau de James Moll Scott, qui, contre remise du joyau, lui donnera la somme demandée. Ainsi que J.S. le demande, il ne sera en rien inquiété pour cette affaire. Signé James Moll Scott, chef de la sûreté de San Francisco.
M. James Moll Scott relut quelquefois ses lignes. Il mit soigneusement des points sur les i, vérifia la ponctuation et, content de lui, murmura en se frottant les mains.
Là, comme cela, de toute façon, il n'aura rien à dire. C'est explicite.
Misérable Strobbins, cette fois-ci, c'est fini de rire.
Le chef de la sûreté de San Francisco se leva. Il était énervé. Il marcha vers la fenêtre pour se délasser l'esprit au spectacle de l'animation de la rue. À ce moment, l'on frappa. C'était Peter Grimsby. « Eh bien ?» demanda James Moll Scott en se retournant brusquement, car telle était sa hantise de John Strobbins, qu'il n'eût pas été surpris de voir apparaître le détective cambrioleur.
« Eh bien, chef, j'ai vu l'aide du camp du prince. Le Japonais accepte. Il m'a fait remettre 2 chèques, un de 100 000 dollars pour John Strobbins, et l'autre de 10 000 pour vous dédommager, a-t-il dit, des bousculades dont vous avez été victime.
Dites des coups que j'ai reçus,
grogna Moll Scott en saisissant les 2 chèques que Grimsby lui tendait. Il les posa sur son bureau, y prit l'annonce qu'il venait de rédiger et reprit.
Tenez, prenez ce papier et envoyez-le porter au Californian Herald. Demain, à 7 heures-ci, le fameux, l'illustre John Strobbins sera coffré.
S'il vient,
objecta Grimsby, après avoir, d'un coup d'œil, parcouru le papier que venait de lui remettre le chef de la sûreté de San Francisco.
« Il viendra !»
affirma Moll Scott sur le ton d'une conviction absolue.
« Vous, veillez bien sur le Japonais et sa suite. Ils partent demain pour Chicago. Je les voudrais voir au diable. Et envoyez-moi le brigadier Ralph et 6 forts gaillards, que je leur fasse la leçon. Allez !»«
C'est entendu, chef !» fit Peter Grimsby, qui se retira aussitôt. Le lendemain matin, à 10 heures précises, M. James Moll Scott, qui, assis devant son bureau, parvenait à grand-peine à maîtriser son impatience fébrile, tressaillit violemment en entendant frapper contre la porte de son cabinet.
« Entrez !» dit-il à voix haute.
La porte s'entr'ouvrit. Un huissier en habit noir parut.
Monsieur John Strobbins prit le chef de la sûreté de bien vouloir le recevoir, dit-il.
« Faites entrer !» ordonna James Moscott en essayant de dissimuler la joie violente qui venait de l'envahir.
Ainsi, bêtement, naïvement, John Strobbins venait se livrer.
Le chef de la sûreté de San Francisco, à voix basse, murmura à des personnages invisibles.
« Attention à vous autres, ne le laissez pas filer. N'hésitez pas à lui casser la tête s'il résiste. »
Rien ne répondit. John Strobbins entra. Il était allègre et souriant. Ses moustaches blondes, mousseuses, découvraient ses lèvres rouges un peu épaisses. De ses mains gantées de clair, il tenait un panama de $1000 et un souple jonc des Indes, tout blanc, sans une tache, que surmontait un pomme d'or ciselé. Le détective cambrioleur était vêtu d'un élégant costume de flanelle blanche, coupé à la toute dernière mode, et de souliers jaunes en peau souple et mat. D'un geste gracieux, il s'inclina devant James Molescott et aimablement déclara
« En toute sincérité, cher monsieur Molescott, je suis heureux de vous voir. Ces brutes de Japonais vous ont mis, à ce que je vois, dans un triste état. Votre nez est un peu aplati et votre œil droit est en capillotade. C'est déplorable, et je vous réitère mes sincères excuses. »
John Strobbins s'inclina une deuxième fois et continua.
« Mais parlons de ce qui m'amène. Votre temps et le mien, bien qu'occupés d'une façon différente, sont également précieux. Donc, j'ai lu ce matin, dans le Californian Herald, votre aimable annonce. Et mon Dieu, me voici. Vous avez le chèque ?»
M. James Moscott ouvrit la bouche pour crier l'appel convenu aux 6 policiers disséminés dans la vaste pièce.
Mais aucun son ne sortit de ses lèvres, car il s'aperçut que tout en parlant, John Strobbins avait élevé le bras et que, dans sa manche, un mignon revolver était braqué sur lui, Moscott.
« Alors, vous avez l'argent, M. Moscott ?» répéta John Strobbins en fixant toujours le policier.
« Mais oui !»
fit Moscott, furieux d'être deviné, cependant que ses mains se rapprochaient peu à peu du bouton de la sonnerie électrique posée sur la table.
« Ne touchez pas à la sonnerie !»
conseilla à voix basse le détective cambrioleur.
« Ou je vous tue. Tenez, prenez le chèque, payez-moi et finissons cette petite comédie, voulez-vous ?»«
Mais oui !» balbutia Moscott, décontenancé.
« Mais vous avez le chrysanthème, sans doute. Où est-il »«
Le voici !» fit John Strobbins en tirant de sa main gauche le splendide joyau de la poche de son gilet.
« Donnez !»« Ah non !»« L'argent d'abord, cher monsieur Moscott. Je n'ai pas confiance, moi. »
Moscott eut un instant d'hésitation, puis, pris d'une idée subite, il ouvrit le tiroir dans lequel il avait enfermé les deux chèques du prince Takahashi. Il les en retira, et ayant posé sur son bureau celui de $10,000, il tendit l'autre, de $100,000, à John Strobbins. Le détective cambrioleur étendit la main gauche pour s'en saisir. C'est ce qu'attendait James Moscott. Il retira sa main d'un geste brusque et hurla
« À moi !»
Des tentures, des armoires d'acajou aussitôt ouvertes, 6 hommes surgirent, des détectives gigantesques armés de casse-tête qui bondirent vers John Strobbins. Le détective cambrioleur s'attendait sans doute à cette attaque, car il cria
« Ah, c'est ainsi !»« Eh bien, vous n'aurez rien du tout, James Moscott !»
Il se pencha en avant, et d'un coup de poing en plein front, projeta James Moscott et son fauteuil contre le mur proche, tandis que de l'autre main, il raflait prestement et le chèque à son nom, qu'avait lâché le chef de la sûreté, et celui au porteur, destiné à James Moscott et qui était resté sur la table. Puis, soulevant d'un effort terrible le lourd bureau d'acajou, il le précipita sur les 6 détectives. 3 d'entre eux s'écroulèrent à demi écrasés sous le meuble pesant. Les autres, stupéfiés d'une pareille audace, se reculèrent. C'était ce que voulait John Strobbins. Avec une rapidité vertigineuse, il bondit vers la fenêtre, l'ouvrit, empoigna un tuyau de gouttière fixé au mur non loin de là, il connaissait ce détail, et se laissa glisser dans la rue. Une automobile attendait au bord du trottoir, à 10 mètres de là. La portière en était ouverte. John Strobbins bondit sur le marchepied et au même moment, la voiture démarra d'un seul coup avec une vitesse folle. Par la fenêtre du cabinet de James Moscott, les détectives et le chef de la sûreté lui-même hurlèrent
« Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! C'est John Strobbins !»
Déjà, la voiture était loin. En trombe, les policiers, comprenant l'inutilité de leurs efforts, dégringolèrent les escaliers de l'hôtel de la police, James Moscott en tête. Ils arrivèrent en bas juste à temps pour voir l'auto de John Strobbins disparaître au coin de la Denver Avenue.
Écumant de rage, James Molescott appela une auto qui passait, la fit arrêter, y prit place avec trois détectives. Sur son ordre, le chauffeur se lança à toute allure dans la direction de Denver Avenue qu'il emboucha. James Molescott, debout à côté du chauffeur, poussa une exclamation de joie en reconnaissant, à moins de 200 mètres en avant, l'auto de John Strobbins qui avait dû ralentir à cause de la foule très dense en cet endroit.
« Vite, plus vite !»
hurla au chauffeur le chef de la sûreté de San Francisco. L'auto des policiers redoubla de vitesse. Peu à peu, la distance séparant les deux voitures diminua. Soudain, James Molescott demeura stupéfié. L'auto de John Strobbins, décrivant un crochet savant, franchissait la grille de la cour de la gare du Northern Pacific Railway.
« Il est à nous !»
glapit le chef de la sûreté de San Francisco. Son auto, 10 secondes plus tard, pénétrait à son tour dans la cour du Northern Pacific. À peine fut-elle arrêtée que Molescott et les trois détectives, revolvers au poing, sautèrent sur le pavé et se ruèrent à la suite de John Strobbins qu'il venait de voir se diriger vers les quais du départ.
« Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! C'est John Strobbins !»
hurlèrent les quatre hommes en courant comme des fous. Ils arrivèrent sur le quai juste à temps pour voir à 50 mètres plus loin le détective cambrioleur montait dans un des Pullman Cars du Sunset Express en partance. Ils accélérèrent leur course et arrivèrent devant les marchepieds du luxueux wagon qu'ils escaladèrent. Mais John Strobbins ne se trouvait plus à l'intérieur. Descendu à contrebois, il se dirigeait au petit trot vers l'avant du convoi. Il y arriva au moment où les hommes d'équipe, debout entre les tampons du fourgon, se disposaient à y accrocher une formidable locomotive. D'un saut, John Strobbins fut sur le pont en fer reliant au tender la puissante machine qui arrivait avec lenteur.
« À terre, vous autres »
ordonna-t-il au chauffeur et au mécanicien en les menaçant du revolver dissimulé dans sa manche. Les deux hommes n'insistèrent pas. Lâchant qui s'appelle, qui son volant de manœuvre, ils bondirent sur la voie. À ce moment, James Molescott et ses trois détectives arrivaient. D'un geste rapide et sûr, John Strobbins renversa la mise en train et ouvrit en grand la valve d'introduction de vapeur. La puissante locomotive démarra brusquement et glissa sur les rails d'acier avec une rapidité vertigineuse. Accoudé à la rambarde de fer, John Strobbins cria au chef de la sûreté médusé
« Vous ne serez jamais qu'un imbécile, monsieur Molescott !»
Mais la locomotive était déjà loin. Le policier n'entendit que ces mots « imbécile » et « Molescott ». Le chef de la sûreté de San Francisco, après un instant de stupeur, se précipita vers le bureau du chef de gare. Celui-ci avait aperçu l'audacieuse fuite de John Strobbins. Il ordonna d'aiguiller la locomotive vers une voie de garage. Ainsi, le détective cambrioleur, ne pouvant aller plus loin, serait obligé de se rendre. 10 minutes se passèrent. Puis, le sous-chef de gare arriva, très pâle, dans le bureau de son supérieur où attendait Molescott.
« Rien à faire, chef. John Strobbins a arrêté sa machine à 1 mille d'ici. Il a remis les aiguilles en place, les a brisés derrière lui après avoir passé et a coupé les fils télégraphiques reliant la gare de Frisco aux autres stations. »
Il n'y avait pas à insister. Le soir même, un peu avant 11 heures, le chef de gare du Northern Pacific eut seulement des nouvelles de John Strobbins, ou plutôt de la locomotive, trouvée seule, abandonnée sur une voie de garage près de Lewis Junction, à 200 milles au sud-est de San Francisco. Et le surlendemain, le prince Ikijiro Takahashi, qui dans l'espoir de retrouver le chrysanthème sacré était encore à San Francisco, reçut de Santa Barbara une petite boîte postale recommandée et qui contenait le précieux joyau, lequel était accompagné de ces quelques lignes tapées à la machine à écrire « Monseigneur, j'ai le très grand honneur de vous adresser, inclus, le bijou que je vous ai par mégarde enlevé et qui ne m'intéresse en rien. Je m'empresse de vous aviser que j'ai touché le chèque de 100 000 $ que vous avez bien voulu me faire parvenir par l'entremise de mon ami James Molescott, chef de la sûreté à San Francisco. J'ai également touché le chèque que vous destiniez à mon ami et qui lui est inutile, attendu qu'il est grassement payé par l'État de Californie. En échange de la bienveillance que vous avez bien voulu me témoigner, monseigneur, je me permets de vous donner un conseil utile. Ne laissez pas vos bijoux dans des coupes sous un lustre électrique, comme vous l'avez fait dans le petit salon de l'Hôtel America. Il se peut qu'un de mes imitateurs habite l'étage au-dessus, qu'il perce le plafond près de la tige du lustre et qu'il pêche simplement avec une ligne à hameçon le bijou qui lui convient.
C'est ce que j'ai fait, en profitant de ce que vous étiez occupé avec mon ami M. James Mulscott. Je sais bien qu'une assez grande habileté est nécessaire dans ce cas, mais nous sommes tous habiles dans notre métier, c'est indispensable.
Vous voilà averti, monseigneur. Comme l'a dit le fabuliste français La Fontaine, la leçon vaut bien 100 000 $, sans doute.
Je n'ai d'ailleurs aucun mérite à vous révéler ma façon d'agir en cette affaire, attendu que jamais je n'opère de la même façon.
Vous ne me devez donc, monseigneur, aucune reconnaissance.
Moi, je vous en dois, pour avoir fait rosser mon ami, M. James Mulscott.
Je dépose à vos pieds, monseigneur, mes hommages les plus distingués.
John Stroppins, détective cambrioleur.
Ainsi s'achève cette aventure nommée « Le chrysanthème sacré » par José Moselli.